Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Elle a été la dernière favorite du roi Louis XV et l'une des femmes les plus regardées et les plus mal jugées de son siècle. On a voulu faire de Jeanne du Barry l'incarnation de la frivolité du XVIIIe siècle, et pourtant son histoire raconte autre chose. Dans sa dernière biographie, l'historien Emmanuel de Varesquiel, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'attache à corriger la légende assez noire de cette femme qu'on a trop souvent réduite à un cliché de bimbo royal. L'écrivain est cette semaine l'invité de l'Envie de Savoir pour nous raconter autrement Jeanne du Barry, et c'est aussi l'occasion d'évoquer son travail de biographe, la frontière entre récits de vie et récits historiques, et de s'interroger sur la place de la biographie parmi les autres formes du récit historique. Emmanuel de Varesquiel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de l'Institut. Aujourd'hui, la biographie historique rencontre beaucoup de succès aujourd'hui auprès du lectorat. Pour citer les autres biographies à côté de celles que vous avez écrites qui ont marqué le lectorat ces dernières années, il y a par exemple le Napoléon de Jean Tullard, la biographie d'Hélène Carrère-Dancausse sur Catherine II. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez qu'il y a un besoin, une envie de comprendre l'histoire à travers des destins individuels ?
Oui, sûrement. Et je dirais qu'il y a un rapport narcissique à la biographie, c'est-à-dire qu'on s'identifie, le lecteur s'identifie très souvent au personnage dont il est question, dont le biographe conduit le récit. Mais je voudrais faire une petite parenthèse pour répondre à votre question ou ne pas y répondre directement. Oui. La biographie a longtemps senti le fagot du point de vue de l'institution et du monde universitaire. Mm-hmm. Le biographe était considéré comme une sorte de maître Jacques de l'histoire qui, à force de tout faire, ne savait rien faire. Était à la fois généalogiste, historien des idées politiques, de la société, de l'économie, et horreur, parmi toutes les horreurs, psychologue. Mmh. Et au fond, la biographie met un certain temps, depuis les années 80, disons depuis la publication du Saint-Louis, du Louis IX de Jacques Le Goff, qui par ailleurs n'écrit pas une biographie, mais qui pose la question, au fond, pour le premier, de ce que représente un défi biographique pour un universitaire. Grosso modo, s'agissant de Le Goff et Saint-Louis, comment écrire sur Saint-Louis quand on ne vit pas au XIIIe siècle, qu'on n'est pas saint, qu'on ne croit en rien, qu'on est laïque et qu'on vit sous la Ve République. Ce défi-là se pose à tous les biographes, pour peu qu'ils travaillent sur des personnages du passé. Le passé étant étrange, et nous est étranger par définition. L'historien est un voyageur, mais il voyage dans le temps. Il voyage aussi quelquefois un peu dans l'espace, ne serait-ce qu'à la quête de ses sources, qui sont souvent éparpillées dans le monde entier. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, je vous parlais des lettres de noblesse de la biographie, je ne suis pas sûr qu'elle les ait véritablement acquises du point de vue de l'université.
Pas encore.
Il y a toujours un hiatus, et je vais dire pourquoi, essayer d'expliquer pourquoi. C'est une quadrature du cercle, la biographie.
C'est-à-dire ?
Parce que d'un côté, ça suppose des qualités propres à l'historien, qui sont des qualités de recherche, d'analyse, de mise en comparaison de ses sources, des qualités de questionnement aussi, de mise à distance et de, je dirais, de bonne distance par rapport à son sujet. Mais encore faut-il les analyser, les mettre en comparaison, se poser à chaque fois qu'on a une source, quelle que soit sa nature, et elles sont de nature très diverses, de savoir quand elle a été produite, pour qui et par qui. C'est les trois questions essentielles si l'on veut conduire aussi justement que possible une analyse de source. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le travail, moi je préfère dire artisanal, mais d'aucuns diront scientifique, du biographe.
Et puis de l'autre côté,
il y a une mise en forme, c'est-à-dire la conduite d'un récit avec lequel les universitaires ne sont pas forcément toujours très à l'aise, ce qui suppose au fond de faire des choix, tout en restant aussi respectueux, honnête et humble que possible vis-à-vis de ses sources, bien entendu, et sans pour autant faire de politique par ailleurs. Mais ça veut dire des choix, ça veut dire conduire un récit en mettant en scène son personnage, en considérant peut-être que la ligne droite qui va de la naissance à la mort du personnage sur lequel on travaille n'est pas forcément la plus séduisante, en considérant d'ailleurs que les dates de naissance et de mort ne sont pas les bornes chronologiques d'une biographie, que bien entendu il faut remonter bien avant et conduire sa biographie bien après, ne serait-ce que pour croiser le rapport de l'histoire et des mémoires et des légendes qui continuent la vie du personnage bien au-delà de sa mort. Et si on ne tient pas compte de ses mémoires, on ne comprendra rien à ce qu'est le personnage sur lequel on travaille. Donc il faut savoir, organiser ces séquences, mettre les points sur certains i, éventuellement organiser des silences, mettre en scène. Et ça, c'est de la littérature. Et donc, la biographie, c'est une sorte de quadrature du cercle entre un travail aussi précis, aussi objectif que possible d'un côté, et de l'autre, une forme de subjectivité dans la construction. Entre la prise de notes, le travail sur les sources, qui peut durer des années, et la rédaction, il y a une phase extrêmement délicate qui s'appelle la construction. Comment construit-on une biographie ? Et si on rate la construction, on rate tout. On aura beau avoir vu toutes les sources, y compris inédites, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient absolument essentielles, mais elles le sont souvent, dont on a besoin. Si on rate sa construction, on rate son livre. Mmh. Voilà. Et on rate aussi, je dirais, son questionnement et au fond, l'aboutissement ultime qui est de donner des réponses à travers une biographie aux interrogations qu'on se pose sur un contexte. Personnellement, comme biographe, je choisis mes personnages dans la mesure même où ils me donnent mieux à comprendre les époques dans lesquelles ils ont vécu que d'autres. Voilà. Je les prends comme des fils d'Ariane dans le labyrinthe sans être mangé par le Minotaure, qui est le temps, par ailleurs, et les anachronismes qu'on peut produire, y compris dans une biographie. Mais pour moi, c'est un peu comme des aimants qui rassemblent à eux la limaille de fer de l'époque dans laquelle ils ont vécu. Et donc, le travail du biographe, alors après, on pourra parler de l'écriture biographique, parce que c'est l'écriture probablement la plus difficile de l'histoire, de toutes les écritures de l'histoire.
Pourquoi vous dites
Elle semble extrêmement facile lorsqu'elle est réussie. Oui. Du point de vue du lecteur, mais en réalité, elle est extrêmement compliquée parce qu'on est en permanence sur la crête de la vague. Il faut savoir, dans un récit, moi, j'ai proposé une formulation s'agissant du récit historique, c'est la production de ce que j'appelle le récit analysé. C'est-à-dire que je vais prendre une métaphore cinématographique, si vous le voulez bien. Vous conduisez un travelling avant. Vous donnez à entendre les voix de l'histoire et la voix de votre personnage parmi d'autres voix. Et donc, vous êtes en mouvement. Et puis, à certains moments, il vous faut ménager des arrêts sur image pour donner du sens à ces voix. Précisément, répondre aux questions que je posais tout à l'heure. Qui parle ? Pourquoi ? Quand, à qui et comment. C'est un peu reprendre, si vous voulez, le dispositif de la tragédie antique. L'historien, le biographe, à travers ses arrêts sur image, joue le cœur antique, le rôle du cœur antique. Il commente l'action. C'est ce qui différencie une biographie historique d'un roman historique. C'est-à-dire lui donner du sens par rapport à un contexte, une mise en contexte du personnage sur lequel on travaille.
Oui,
donc il faut savoir ménager ces arrêts sur image, mais qu'ils ne soient pas trop longs, de façon à faire en sorte que le lecteur ne perde pas le fil du récit. Donc vous voyez, c'est une succession de travelling avant et d'arrêt sur image. C'est ça l'écriture biographique et c'est une écriture vraiment difficile. D'autant plus que, si vous voulez, l'historien, au départ, quand on démarre des études d'histoire, on n'est pas formé à l'écriture. Ça vous tombe sur la tête ou ça vous tombe jamais sur la tête. C'est un autre monde. Donc cette espèce de mixité que suppose la biographie est quelque chose de compliqué, quoi.
Et vous faites aussi une métaphore sportive dans l'introduction de la biographie sur Jeanne d'Arc.
Dieu sait que je ne suis pas sportif.
Et bah, vous dites que l'écriture biographique, ça tient aussi du marathon. Mais ce qui rejoint ce que vous venez de dire
il faut avoir du souffle. Ouais. Il y a du marathon dans la mesure même où ce sont des travaux de très long terme, les travaux biographiques. Pour peu que les archives soient dispersées.
Ce
moi,
qui
pour
était
Talleyrand,
le cas.
J'ai mis 8 ans de recherche avant de commencer à penser à écrire mon Talleyrand en 2006.
Et Jeanne Dubarry, vous avez mis un petit peu moins de temps.
J'ai mis 3 ans.
Ouais. On y reviendra sur le travail des sources. Vous avez dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, en disant que la biographie n'avait pas encore acquis ses lettres de noblesse parmi les historiens. Et certains, effectivement, accusent les biographies d'occuper un peu trop l'espace du champ des récits historiques. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? Et si c'est le cas, est-ce que c'est grave, selon vous ?
Toutes les routes mènent à Rome. Je connais des universitaires qui s'essaient à la biographie qui se plantent, parce qu'ils ne savent pas écrire. Je connais des hagiographes qui écrivent très bien, mais qui se plantent, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leurs sources. Les biographies, entre guillemets, réussies, alors après tout ça est profondément subjectif, ne sont pas si nombreuses que ça. Il n'empêche qu'elles occupent en effet un espace considérable dans la production des livres d'histoire, en tout cas du point de vue, entre guillemets, du petit public cultivé. Est-ce un tort ou un succès ou est-ce qu'on peut s'en réjouir ? J'ai pas de réponse. Ce dont je suis sûr, si vous voulez, c'est que l'amateur d'histoire, en dehors des professionnels de la profession, pour reprendre un mot de Fernand Reynaud, l'amateur d'histoire qui se passionne pour l'histoire, ira plus facilement à l'histoire à travers précisément une singularité, l'histoire d'un personnage singulier, qu'à travers un travail universitaire pur et dur.
Oui, c'est une porte d'entrée.
Qui, de mon point de vue, est souvent plus intéressant, bien entendu, mais qui est moins accessible du point de vue de la lecture à ce public amateur d'histoire. Voilà.
On va parler de Jeanne Dubarry. La difficulté avec cette femme, dans votre travail d'historien, c'est qu'elle a laissé assez peu de traces écrites. La grande majorité des lettres qu'elle a pu écrire de son vivant a disparu. C'est elle qui a orchestré ce jeu de pistes ou c'est la grande histoire qui l'a oubliée ?
C'est la politique. Il est probable que les centaines de billets, de lettres, les correspondances actives et passives, d'ailleurs, de Jeanne Dubarry à Louis XV, dont elle a été la maîtresse officielle de 1768 à la mort du roi.
Sa dernière
maîtresse. En 1774, est probablement la maîtresse la plus importante pour toutes sortes de raisons, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je pense que par l'intermédiaire du premier valet de chambre de Louis XV, qui était un très très grand ami de Jeanne Dubarry, qui est Jean-Benjamin de Laborde, ses correspondances, pour des raisons de secret d'État, ont été brûlées. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai retrouvé en tout et pour tout que deux lettres de Louis XV à Jeanne Dubarry, citées par Breuil, qui était à la tête du secret du roi, comme vous le savez. Mmh. Et de toutes ces correspondances, je n'ai trouvé que deux séries un peu complètes. Une correspondance tardive à l'un de ses amants postérieurs à la vie de cour de Jeanne, qui était l'un de ses voisins qui vivait à côté de Louvciennes dans les boucles de la Seine, non loin de Marly, anglais, un lord anglais, et une série de correspondances qui donnent beaucoup à penser de tempérament et du caractère de Jeanne au contrôleur général des finances Calonne, sous Louis XVI, dans les années 1780, qui est conservé à la British Library. Mais on dispose de peu de choses. Par contre, la grande chance que j'ai eue, c'est de tomber sur les archives inédites conservées à la bibliothèque historique de la ville de Versailles, d'un érudit versaillais du 19e qui s'appelle Charles Vatel, qui était probablement un peu amoureux de Jeanne Dubarry et qui s'était engagé dans une biographie qu'il n'a jamais achevée, mais tout en rassemblant un nombre considérable de pièces d'archives, notamment des pièces de procès, des mémoires à consulter. Il y a eu beaucoup de procès au sein de la famille Dubarry pour se partager le magot, si j'ose dire. Et parmi ces archives, et d'autres fonds ont été achetés par les archives nationales, par la Bibliothèque nationale, par les archives des Yvelines aussi, les archives départementales, j'ai retrouvé les comptes de la maison, ce qu'on appelle la maison de Jeanne Dubarry, c'est-à-dire de sa domesticité et de l'ensemble de ses achats à l'époque de sa faveur et après. Et quand on sait les lire, la lecture des comptes est très, très, très instructive parce qu'elle donne beaucoup à penser et de nombreuses explications à la personnalité de celle qui dépense. Voilà. Et puis, j'ai trouvé aussi un certain nombre d'archives inédites, notamment les archives de Laurent de la Baumelle, qui était un protestant, grand adversaire de Voltaire d'ailleurs, protestant qui était en disgrâce et que Jeanne Dubarry fait venir à Versailles pour en faire son bibliothécaire personnel. C'est lui qui constitue la bibliothèque de Jeanne Dubarry. Mm-hmm. Plus de 1000 ouvrages, ceci soit dit en passant, montre à quel point elle n'était pas la sotte inculte qu'on a voulu faire d'elle pour des raisons politiques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et Laurent de la Baumelle avait un frère, Jean Gliviel, qui a laissé un journal parisien inédit, dans lequel donc d'abord des lettres, et puis ensuite le journal, dans lequel il parle beaucoup de Jeanne Dubarry. Et donc, à travers ces archives, grâce aux descendants La Baumelle, ces archives qui, depuis, ont été en partie publiées, grâce à ces archives, j'ai eu pas mal de choses.
Oui, sans ces sources,
vous l'auriez... Je suis un chercheur. Je ne suis pas chartiste, mais j'ai l'âme chercheuse. J'éprouve un immense plaisir au contact des sources. J'aime traîner dans les cartons d'archives. y perdre mon temps pour le gagner, si j'ose dire. Le travail de l'historien, c'est un éloge de la lenteur, qui est totalement anachronique par rapport à la façon dont on vit aujourd'hui. Il faut apprendre à perdre son temps pour en gagner. J'utilise souvent cette métaphore de la forêt et de la clairière. Par les algorithmes, souvent, mes élèves vont directement à la clairière, sans se perdre dans la forêt. Mais il faut ouvrir un carton d'archives, lire l'ensemble des documents qui s'y trouvent, pour s'imprégner. On est un peu comme des ruminants, les historiens. Il faut ruminer le climat, l'air du temps, la sensibilité de l'époque sur laquelle on travaille.
Pour toucher,
pour
ouais.
Éviter de faire des anachronismes. Et donc, il faut lire. Lire, lire, lire et encore lire. Et ne pas aller directement par les algorithmes ou l'indexation. Et ça sera encore pire avec l'IA. Il n'y aura plus de travail de l'historien avec l'IA. Je suis très pessimiste de ce point de vue-là. Mais il faut traîner dans les fonds d'archives. Voilà.
Alors, pour revenir à Jeanne Dubarry, donc elle a fini guillotinée sous la Révolution. C'était une maîtresse assez mal aimée de son vivant, un peu comme les autres héros de vos précédentes biographies, Emmanuel de Varesquiel. Avant elle, vous avez écrit par exemple sur Fouché, ministre de Napoléon, le diplomate Talleyrand. On leur accole une légende assez noire. Ils étaient connus tous les deux pour leur ambiguïté, leur cynisme. Est-ce que vous mettez Jeanne Dubarry dans cette même case ?
Oui, oui, c'est-à-dire qu'au fond, je me suis toujours intéressé à des personnages à mémoire, qui ont généré des mémoires qui n'ont jamais vraiment été travaillées, génération après génération de biographes, et qui ont été prises pour argent comptant. Et en particulier les légendes noires. Je n'aime pas beaucoup les personnages qui font pleurer dans les chaumières, du type Lafayette qui passe sa vie à chevaucher sur un cheval blanc, m'intéresse moins. Et puis j'aime bien les personnages, comme disait Dorothée de Dino de son oncle, le prince de Talleyrand, divers, complexes et successifs. Voilà. Des personnages à secret, des personnages qui se cachent, des personnages comme le dit Sainte-Beuve de Talleyrand, de la recomposition d'une vie qui se recompose par rapport à la postérité. Et qui donc qui use du mensonge par omission ou direct. Et ces personnages-là m'intéressent, ou des personnages qu'on a transformés, c'est le cas de Jeanne Dubarry, pour des raisons politiques, parce qu'elle apparaît à la cour, elle est présentée officiellement à la cour en 1769, elle apparaît en 1768, en pleine crise de l'absolutisme monarchique, en pleine lutte de pouvoir entre les conseils du roi Louis XV et les parlements, en particulier le Parlement de Paris. Et elle contribue certainement par son influence et peut-être par, son caractère de réassurance par rapport aux hésitations d'un roi neurasthénique, par ailleurs, qui était Louis XV, à ses grandes réformes parlementaires, qu'on a appelées le coup de majesté du chancelier Maupoux, qui consiste dans le renvoi du Parlement de Paris et des parlements de province et l'abolition des charges héréditaires de magistrature, ce qui était absolument considérable. Réformes sur lesquelles Louis XVI, peut-être pour son plus grand malheur, va revenir dès son accession au trône en 1775, et guerre parlementaire qui va reprendre et conduire tout droit aux États généraux et à la Révolution française. Déjà sous Louis XV, avant ce renvoi des parlements en 1771, le Parlement de Paris réclame les États généraux. Et c'est une opposition frontale à travers les droits parlementaires dont les parlementaires usent et abusent, de remontrances, d'itératives remonstrances, etc., qui aboutissent à des lits de justice. Je ne rentre pas dans les détails.
Non, mais on comprend
qu'elle
était politique.
Tout ça autour des tentatives de réforme, en particulier fiscales, qui allaient plutôt d'ailleurs, quand on voit les réformes conduites par l'abbé Terray, qui était un proche de Jeanne Dubarry, plutôt à une forme d'égalitarisation de la fiscalité d'Ancien Régime. Donc elle apparaît en plein milieu de ce conflit. Elle est du côté du roi. Et donc, elle va, si j'ose dire, être la victime d'une campagne pamphlétaire de cette littérature clandestine dont parle magnifiquement Robert Darnton, ses nouvelles à la main, d'abord manuscrites, qui naissent de ce qu'on appelle le bruit public, qui passent à l'étranger, qui prennent la forme d'un livre ou d'un pamphlet et qui reviennent, pour cause de censure, au sein du royaume et qui sont distribués dans les officines clandestines des libraires du Palais Royal ou de la rue Saint-Jacques ou d'ailleurs. Et cette littérature attaque ces pamphlétaires, je pense à Pidensa de Mérobert, à Thévenot de Morande, attaque la maîtresse du roi en la réduisant à son corps. Et en attaquant le corps de la maîtresse royale, on attaque le corps du roi lui-même. C'est-à-dire en réduisant le roi à un rôle, je dirais, de jouisseur passif, qui n'existe plus que par rapport à la sexualité de sa maîtresse, on désacralise la fonction royale et on réduit le roi et au fond, cette littérature clandestine qui attaque Jeanne du Barry, et c'est en cela qu'elle m'a beaucoup intéressé, parce qu'elle me conduit à la Révolution française sur laquelle j'ai pas mal travaillé. On est là dans les soutes de la Révolution, dans la mise en place de ce que Jürgen Habermas appelle l'espace public du politique, qui n'est pas tant alimenté par cette littérature normative de type contrat social de Rousseau ou autre, mais qui est alimenté par cette littérature clandestine qui a pour titre « Anecdote, vie privée de Louis XV, vie privée d'une femme publique », pour reprendre un titre très méchant consacré par Thévenot de Morande, publié à Londres en 1774, consacré à Jeanne du Barry. Cette littérature-là est absolument passionnante parce qu'elle en dit très long, si vous voulez. Elle connaît un succès beaucoup plus important que le succès des textes politiques, à l'exception peut-être des petits textes de CIS en 1789, Qu'est-ce que le tiers d'État ? Mais la plupart du temps, Danton a publié un article dans une revue américaine sur les tirages de ses pamphlets. Ils sont considérables par rapport à l'époque, sur une population de 26 millions d'habitants, dont la moitié ne sait ni lire ni écrire. Donc voilà, elle est importante parce qu'elle dit quelque chose de la montée en puissance de la Révolution, également de la politique du roi et des représentations que l'on se fait du pouvoir royal et de l'absolutisme royal. Et puis, elle dit aussi quelque chose des évolutions esthétiques qui traversent la seconde moitié du XVIIIe siècle, du passage de ce goût pompadour, rococo, pour aller un peu vite, à ce qu'on appellera par la suite le néoclassicisme. Elle est une sorte de ministre de la culture in partibus. Hein, elle n'a pas de fonction officielle, mais elle a cette fonction officieuse. Et elle est beaucoup plus, à mon avis, que Madame de Pompadour. Elle règne sur les arts, la littérature, la musique, le théâtre, mais surtout la peinture et l'architecture. Et elle encourage les très grands architectes néoclassiques, Ledoux, Peyre et Devailly. C'est grâce à elle que l'Odéon existe tel qu'il existe aujourd'hui. Et elle fait qu'on sait grâce à elle que les salines d'Arc-et-Senans de Ledoux existent aussi. C'est elle qui fait construire l'un des tout premiers pavillons néoclassiques à l'italienne, qui est le pavillon de musique de sa petite propriété de Louveciennes.
Elle a fait beaucoup de choses. Vous avez aussi évoqué en parallèle la Pompadour. Et vous dites que le XVIIIe siècle a été le siècle de la femme. Vous le dites aussi dans ce livre-là.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
Elle représente quelque chose qui tient dans sa vie propre et dans les représentations qu'on a données d'elle, quelque chose qui relève d'une forme de liberté de la femme, ne serait-ce que par son contrat de mariage. Elle contracte un mariage blanc avec un personnage insignifiant qui apparaît et disparaît parce que les usages voulaient à l'époque, et ça fera sourire nos auditeurs, qu'une maîtresse officielle du roi soit mariée. Mais son contrat lui donne une grande liberté. Elle gère elle-même sa fortune qui est considérable grâce aux munificences royales via le banquier du roi Beaujon qui occupait l'Élysée actuelle. C'était un personnage, un financier considérable. Et on aperçoit quelque chose de cette liberté à travers le premier portrait que fait d'elle Élisabeth
Gilles
Lebrun,
qui était une grande
en 1781. C'est un portrait d'ailleurs qui est en couverture des éditions de cette biographie de Jeanne du Barry, qui représente pour la première fois un portrait de femme au naturel. C'est-à-dire sur un fond neutre, en déshabillé, on dira à l'époque en chemise ou en gaule, un chapeau de paille, les cheveux dénoués, sans mouche, ni poudre, ni fard, ni rouge, les cheveux dénoués, un grand chapeau de paille à plume bleue sur la tête. Le tableau fera scandale, et encore plus scandale lorsque Marie-Antoinette choisira 2 ans plus tard de se faire représenter de la même façon. C'est le fameux portrait de Marie-Antoinette en gaule qui provoquera un scandale public. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, les femmes étaient représentées, historisées, sur un fond de décor historique, d'architecture, de colonnes, de paysages, de ce que vous voudrez.
En tenue d'apparat ?
Soit en tenue d'apparat, bien entendu, mais aussi soit sous forme de métaphore en nymphes ou en personnages de la mythologie grecque. Et c'est une des toutes premières fois, et Élisabeth Vigée-Lebrun a été l'un des peintres préférés de Jeanne du Barry, c'est l'une des toutes premières fois où, à travers elle, un personnage féminin apparaît ainsi dans un tableau naturel.
Donc on comprend bien sa personnalité juste en regardant
cette couverture. Et souvenez-vous de la première phrase de Vigée-Lebrun dans ses mémoires, Lorsqu'elle parle des dernières années, des années qui ont précédé la Révolution, elle dit « les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées ». La Révolution, même si la Révolution accorde un certain nombre de droits aux femmes, mais très rapidement, dès l'époque de la Terreur en 93, la Révolution, c'est la revanche des hommes sur les femmes, et c'est le retour des femmes à leurs occupations traditionnelles d'éducation des enfants, et on renvoie les femmes à la cuisine, quoi, pour dire les choses.
Parce que les femmes de...
Parle là des femmes de l'élite, hein, bien
les
entendu.
Les femmes de cour, ouais, voilà, oui, c'est ça.
Pas que de cour.
Pas seulement.
Des élites, ouais. Les élites sont plurielles, hein, sous l'Ancien Régime.
Alors, ce n'est pas la première figure féminine sur laquelle vous avez travaillé, Emmanuel de Varesquel. Il y a eu Marie-Antoinette, bien sûr, sur le procès.
J'ai écrit le récit de son procès,
plus particulièrement. Vous vous êtes aussi intéressé à Félicie de Fauveau, que je ne connaissais pas, mais qui est une sculptrice
passionnante
du 19e siècle. Vous posez, au début de la biographie d'Eugène Dupary, cette question où vous vous demandez comment écrire en 2023 sur une femme quand on est un homme. Est-ce que c'est une question que vous vous seriez posée 10 ans auparavant?
Sûrement, oui, bien sûr. Mais je pense qu'on a tous, je parle des hommes, une certaine part féminine en nous. Mais l'exercice est certainement plus délicat. C'est un exercice de projection psychologique qui est plus compliqué, probablement. Mais en même temps, plus exaltant. J'ai beaucoup aimé ces écritures sur des femmes. Et j'ai choisi, alors je ne parle pas de Marie-Antoinette, mais s'agissant de Jeanne Dubarry, très grande collectionneuse, ou de Félicie Fauveau, qui a inventé un peu le néo-gothique, qui était une artiste et une sculptrice de très grand talent, qui a eu droit d'ailleurs à une grande exposition au musée d'Orsay il y a quelques années, autour de la parution de mon livre d'ailleurs. Les femmes artistes m'intéressent, les hommes aussi d'ailleurs, dans la mesure où ils se dédoublent à travers leurs œuvres et leurs créations. Au fond, ils inventent dans leurs œuvres, quelquefois les ratés de leur vie, ce qu'ils n'ont pas pu accomplir dans leur vie. Il y a tout un travail, un jeu de reflets entre la vie et l'œuvre, sur lequel Sainte-Beuve s'est pas mal appesanti, mais moi qui m'intéresse beaucoup comme biographe, c'est comme une multiplication de vies, les vies d'artistes ou de collectionneurs. Parce que quand on ne passe pas par la peinture ou la sculpture, cette esthétique qu'on porte en soi, on la retrouve dans une collection. Je travaille en ce moment sur un très grand collectionneur. Ce sont des personnages qui me passionnent éternellement.
Alors pour Jeanne Dubarry, il y a une question qui a beaucoup occupé votre enquête.
Oui.
C'est la question de ses origines familiales. Il y a toujours eu un flou sur sa filiation paternelle, notamment. Vous remettez un petit peu les choses à leur place. Aujourd'hui, on peut dire avec certitude...
il n'y a pas de certitude en histoire, mais je pense avoir un peu plus approché d'une forme de justesse. Je lui ai trouvé un père. On lui a prêté, autour de ce dénigrement porté par la littérature pamphlétaire, on lui a porté, pour la rouler encore un peu plus dans la farine ou dans la boue, on lui a donné pour père un moine défroqué franciscain qu'on a baptisé du nom de frère Ange Picpus et qui est un copier-coller direct du héros de l'un des livres les plus licencieux du XVIIIe siècle qui s'appelle Le Portier des Chartreux. Le héros, vous allez sourire, s'appelle Dom Bougre. Et le frère Ange Picpus qu'on invente comme père pour Jeanne Dubarry, c'est un décalque de Dom Bougre. Voilà. C'était un peu facile. Tout ça, ça va dans le même sens. Il s'agit de dévaloriser le roi en dévalorisant sa maîtresse. En réalité, elle est bâtarde, pour reprendre une expression de l'époque, et cette tare va la poursuivre toute sa vie, et je pense qu'une grande partie de l'explication de son ambition, de sa maîtrise d'elle-même et de sa vie jusqu'à la cour, c'est une sorte de revanche prise sur le sort de son destin et sur cette bâtardise originelle dont elle a été la victime puisque son père ne l'a jamais reconnue, même si ce père est infiniment plus important que le moine défroqué qu'on lui a prêté, est un riche financier parisien qui s'appelle Claude Billard du Monceau et qui était receveur des rentes de l'hôtel de ville, mais qui ne l'a jamais reconnu. Et par ricochet, je lui trouve aussi une fille, on ne lui connaissait pas d'enfant, et cette fille, qu'elle va marier avec un officier supérieur des armées du roi, ne sera jamais reconnue non plus.
Par Jeanne Dubarry.
Non.
Dans le chapitre qui s'intitule « Ce que le biographe ne sait pas », vous posez une question assez insondable. A-t-elle aimé le roi? A-t-elle aimé Louis XV? D'après vous, oui. C'est votre thèse. À ce moment-là, il me semble que vous utilisez le « je ». vous donner votre intime conviction.
Oui, oui. Parfois, je m'autorise ces libertés-là, oui, oui. C'est pas forcément bien vu de mes camarades universitaires. Mais je pense que le biographe a le devoir à condition de ne pas transgresser ses sources, bien entendu. Mais parfois, en tout cas dans des cas de figure qui sont ceux d'un extrême silence, tout d'un coup qu'on retrouve dans la vie du personnage sur lequel on travaille, parfois il peut s'autoriser un avis personnel et émettre des hypothèses. En l'absence de cette correspondance dont on parlait tout à l'heure entre le roi et Jeanne du Barry, j'essaye de trouver, par le biais du croisement d'autres sources, et elles sont tout de même assez nombreuses, ce qui a pu, au-delà du dernier transport, comme dirait Chateaubriand de Madame de Beaumont, c'est-à-dire au-delà de la question sexuelle. Si ça n'avait été qu'une question sexuelle, cette liaison n'aurait pas duré 7 ans ou 8, presque 8 ans comme elle l'a duré, et le roi n'aurait accordé aucune confiance à cette jeune femme de 21 ans dont on disait à la cour qu'elle était une fille de rien et qu'elle sortait du ruisseau et qu'elle avait officié dans des bordels. Je pense que le roi savait très bien à quoi s'en tenir de ce côté-là, et cette confiance n'aurait jamais existé. Donc il faut essayer de voir ce qui a fait, ce qui a créé cet attelage tout de même totalement dingue. L'un des hommes les plus puissants du monde à l'époque, et une femme, jusqu'alors les maîtresses royales, pas Madame de Pompadour qui était bourgeoise, mais était issue de l'aristocratie de cour, les demoiselles de Châteauroux, de Nesle, etc. Et donc cet attelage improbable, il faut lui trouver des explications. J'en ai un certain nombre. Ils partagent ensemble le goût du secret, ça c'est certain. Il y a aussi ce goût des enfants qu'ils partagent.
Elle aimait beaucoup les
puis,
enfants.
Et puis cette impression de solitude dans l'enfance. Le jeune Louis XV est orphelin de père et de mère très tôt, à 2 ou 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Il n'est pas maître de son... Alors, comme tous les princes héritiers, les dauphins, il n'est pas maître de son éducation. Mais Jeanne du Barry subit un peu les mêmes conditions de l'enfance. C'est-à-dire qu'elle est mise dans un couvent, qui est le couvent des Dames de Saint-Or, à l'ombre de Sainte-Geneviève, devenu le Panthéon dans le 5e arrondissement actuel. Mais ensuite, son père l'abandonne assez vite. Et donc, cette solitude de l'enfance... Et certainement une solitude partagée entre le roi et sa maîtresse.
Qui les a rapprochés, peut-être.
Au point que le roi va lui faire confiance, va la mettre au courant de sa politique, du secret diplomatique qu'il conduit, et va lui, surtout, lui laisser la bride très lâche en ce qui concerne les questions d'art, d'architecture et d'art décoratif. C'est elle, vraiment, Jeanne du Barry, qui invente les formes droites, les premières grandes commandes. Alors, à la différence des autres maîtresses royales, elle ne se fournit pas dans le mobilier de la couronne, mais elle va directement dans les ateliers des ébénistes, des bronziers. Par exemple, elle fait la carrière d'un ébéniste génial qui s'appelle Louis Delannoy, et qui est le premier à inventer les formes qu'on baptisera de style Louis XVI, mais Louis XVI n'y peut rien. On devrait appeler ce style le style du Barry, parce que les premières formes droites, les pieds droits des fauteuils, vous savez, cannelés rudentés, les dossiers violonnés en chapeau, je ne me souviens plus des termes, tout ça, ce sont les premières commandes directes de Jeanne du Barry. Elle a joué un rôle essentiel à travers les marchands merciers, Daguerre, je pense en particulier, Poirier et Daguerre. Elle a joué un rôle essentiel à travers ses commandes, et elle avait les moyens, dans les évolutions décoratives. Les décorations intérieures du petit Trianon, c'est pas Marie-Antoinette, c'est elle. La première véritable maîtresse, entre guillemets, du petit Trianon, bien avant que Louis XVI ne le donne à Marie-Antoinette en 1775, c'est Jeanne du Barry.
Alors, j'avais une dernière question après cette enquête que vous avez terminée il y a maintenant 2-3 ans. Mais cette question est aussi valable pour les précédentes biographies que vous avez pu écrire. Est-ce que ça vous arrive, avec le temps qui passe, de vous dire que vous auriez pu, en fait, réécrire, proposer d'autres interprétations que celles qu'on peut lire aujourd'hui dans les livres qui sont publiés ?
Alors, il m'arrive bien souvent, et parfois elles me sont envoyées par des lecteurs, de tomber ou de disposer d'autres sources qui m'auraient permis d'aller plus loin, de compléter certains passages. Mais jusqu'à présent, il ne m'est pas encore, peut-être à tort d'ailleurs, il ne m'est pas encore arrivé de me dédire complètement de la position, du questionnement que j'ai pu adopter sur un personnage et qui a guidé la construction du livre que je lui ai consacré.
Le travail voilà. A été bien fait en amont.
Alors, je vous laisse libre de dire ce que vous voulez.
Il y a une prochaine figure sur laquelle vous vous intéressez.
Je vous en ai parlé, hein, un grand collectionneur.
C'est celui-ci
au tournant du 18e et du 19e.
On attendra la publication pour connaître le nom.
Qui n'était pas très loin d'ici.
Merci beaucoup, Emmanuel de Varesquel.
C'est moi qui vous remercie.
De nous avoir partagé cette perspective de biographe. Votre livre est disponible au format poche des éditions Talendier à la librairie de l'Institut.
Oui, c'est pas le meilleur format. Notamment. Alors évidemment, il est plus accessible en prix. Ouais. Mais je préfère, ne serait-ce qu'à cause de l'illustration qui s'y trouve, ce que j'appelle le format Princeps, qui est encore disponible en librairie.
Qui est quand
même beaucoup plus agréable.
Et alors, on en a très peu parlé, mais l'intérêt du livre réside aussi dans le style. Il est très bien écrit, c'est un vrai plaisir de le lire. Donc, je le recommande à tous les auditeurs.
L'histoire, c'est une écriture.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Les podcasts de l'Institut de France.